Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Jean-Jacques. Je suis né en Ardèche il y a peu de temps. Mes grands-parents avaient une petite ferme. Et quand je dis une petite ferme, c'était vraiment une petite ferme. Vous savez, c'est 3 petits pois, 2 carottes, quelques patates, quelques châtaigniers. Et puis une dizaine de chèvres, une trentaine de brebis. Et régulièrement, le dimanche après-midi, souvent, on allait garder les brebis dans les prés. Et j'aimais ça, mais peut-être surtout parce que nous, on faisait ça quand il faisait beau, qu'il faisait pas froid, et puis que ça durait pas trop longtemps non plus. Mais il y avait quelque chose de vraiment particulier. Un moment dans l'année qui était vraiment, vraiment chouette, et où vraiment on attendait de pouvoir aller à cette ferme. C'est quand il y avait des chevreaux et des agneaux. Parce que c'était le moment où on pouvait leur donner du lait au biberon. Et c'était vraiment quelque chose d'assez chouette. Les chevreaux étaient assez curieux. Ils venaient nous tirer par les manches. Ils venaient réclamer. Ils essayaient de piquer le lait des autres. Mais les agneaux étaient peureux. Ils étaient attentifs au moindre mouvement. Et souvent, c'était mon grand-père qui devait nous les attraper, nous les mettre dans les bras, jusqu'à ce qu'ils se sentent en sécurité et puis qu'ils avalent un peu goulûment leur ration de lait. On passait l'après-midi dans l'écurie, on rentrait le soir en sentant la paille et le mouton. Et finalement, ces moments-là sont peut-être les moments les plus précieux que j'ai pu garder de mes souvenirs d'enfance en Ardèche. Le souvenir de ces temps qu'on passait assis dans la paille avec ces agneaux. La fête de Pâques, c'est aussi le souvenir d'un agneau. C'est le souvenir d'un agneau sacrifié. C'est le souvenir d'un agneau ressuscité. C'est le souvenir d'un agneau victorieux. Et je vous propose de voir ça au travers de 3 scènes qui nous sont présentées dans la Bible. L'agneau sacrifié. La première scène se passe il y a plus de 3500 ans, c'est le temps de l'Égypte. Le peuple de Dieu est alors esclave en Égypte depuis plus de 400 ans. Et si vous avez lu le livre de l'Exode, ou si vous avez même juste vu peut-être le film « Les 10 commandements », vous savez à peu près ce qui va se passer. Des plaies vont se succéder sur l'Égypte. Elles vont se déverser sur l'Égypte, plaie après plaie. Mais le Pharaon s'obstine. Il refuse de laisser partir le peuple de Dieu. Dieu est en colère. Il est en colère contre le peuple égyptien qui résiste à sa volonté. Alors Dieu prévient, il y aura une dernière plaie. Mais cette fois, ce n'est pas juste l'eau, la nature ou les animaux qui seront touchés. Cette fois, dans chaque famille, le fils aîné mourra. Et voici ce que Dieu dit dans Exode 11. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siège sur son trône, jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille à la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a pas eu, et qu'il n'y en aura plus de pareils. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs ici présents descendront vers moi, ils se prosterneront devant moi en disant « Sors, toi et ton peuple qui marche à ta suite. Après ça, je sortirai. » Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. Dieu dit que dans toute l'Égypte, dans toutes les familles, le fils aîné, celui qui représente la famille, va mourir. Mais il dit aussi que ce ne sera pas le cas du côté de son peuple. D'un côté, il y a des cris comme jamais il y en a eu, et de l'autre côté, c'est le calme le plus complet. Pourquoi ? Parce que le peuple sera protégé lorsque Dieu jugera l'Égypte. Ils seront protégés. Mais cette protection, ça ne va pas être des portes fermées à double tour. Ça ne va pas être un guerrier puissant qui sera là et qui va s'opposer. Cette protection, elle sera assurée par un agneau. Un frêle agneau. un tout petit agneau, un agneau sacrifié. Cet agneau, ils vont devoir aller le chercher. Ils vont devoir choisir parmi leurs bêtes un agneau pur, sans défaut, sans tache. Ils vont devoir tuer cet agneau. Ils vont devoir prendre du sang de cet agneau et le mettre sur les linteaux des portes et rester à l'abri des maisons jusqu'au matin. Et voici ce que leur dit Moïse. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et vos enfants à perpétuité. Cette nuit-là, dans chaque famille égyptienne, un fils aîné est mort. Dans chaque famille du peuple hébreu, un agneau est mort. Le sang répandu de l'agneau sur le linteau a protégé le peuple de Dieu. Par la mort de l'agneau sacrifié, la vie a été sauvée parmi le peuple de Dieu. Quelques réflexions pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ? La première chose que ça nous dit, c'est que les Hébreux avaient besoin d'un protecteur. Ils ne doivent pas leur salut à leur bonne conduite, mais au fait que Dieu ait désigné un protecteur pour les sauver. En fait, la Bible enseigne que nous sommes tous pécheurs. Et quand je dis tous, la Bible dit que c'est chaque homme, chaque femme, de chaque génération depuis la création. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que d'être pécheur ? Quand la Bible parle du péché, ça ne veut pas juste dire que nous faisons des choses qui sont reconnues mauvaises par la société, vous savez, hein, voler, tuer, exploiter les autres. Ça parle avant tout de notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Lorsque j'ignore Dieu, lorsque je ne prends pas Dieu en compte dans ma vie, lorsque je fais comme s'il n'existait pas, en fait, je pêche. Dieu considère cela comme une rébellion. Finalement, ça veut tout simplement dire, moi, je vis ma vie comme je veux, selon mes propres désirs, selon mes propres envies, je fais ce que je veux. Et c'est pour ça que les Hébreux ont besoin d'un protecteur. Leur esclavage ne les a pas rendus meilleurs que leur maître. Ils ont besoin d'un protecteur. Nous avons besoin d'un protecteur. La deuxième chose, c'est que le protecteur meurt pour que les protégés vivent. La demande de Dieu n'est pas d'aller chercher un agneau, de le prendre avec eux et puis attache-le devant la porte de la maison, que je le vois, cet agneau. Nous l'avons dit, les Hébreux vivent une rébellion vis-à-vis de Dieu qui n'est pas si différente de celle de leurs oppresseurs. Ils méritent le même jugement. Dès le début de l'humanité, Dieu avait prévenu que la conséquence de la désobéissance ou de la rébellion serait la mort. Si ce n'est pas eux qui meurent, un autre doit mourir. Mais il y a une autre chose qui apparaît dans cette scène. Imaginez un instant. Comment est-ce que vous réagiriez, si cette nuit on vous déclarait qu'il y a une épidémie qui va se répandre dans tout le pays et que ça va toucher toutes les familles et que votre seule issue, c'est d'aller ramasser des pissenlits et de les mettre autour de votre lit? C'est bizarre, hein ? En fait, franchement, ça a dû être à peu près aussi bizarre pour eux. Tuer un agneau, prendre de son sang, marquer les linteaux des portes. Je suis sûr qu'aucun d'entre eux n'avait envisagé que ce serait ça la solution de leur salut. Ce qui change, finalement, c'est la confiance que nous avons dans celui qui demande. C'est la foi. Avoir un protecteur ne suffit pas. Nous devons croire en lui. Mais attention, ce n'est pas la force de notre foi qui sauve. Un théologien, Don Carson, raconte cette histoire et il utilise Pâques pour l'illustrer. Imaginez deux hommes israélites qui sont là cette nuit-là, Nathan et Simon. Et ils discutent ensemble. Nathan dit à Simon, « Ça t'inquiète pas trop, toi, ce qui va se produire ce soir ?» Et Simon répond, « Non, pas vraiment. Dieu nous a dit comment nous y préparer par son serviteur Moïse, donc pas besoin de s'en faire. Tu as bien tué l'agneau. Tu as bien pris de son sang. Tu l'as bien mis sur les deux montants de la porte. Tu as bien l'intention de manger le repas de la Pâque en famille. Tu es prêt pour partir. » Et Nathan enchaîne. « Mais bien sûr que j'ai fait tout ça. Je suis pas bête à ce point. Mais j'ai peur. Parce que quand je pense à tout ce qui s'est produit dans ces derniers temps, les moustiques, l'eau changée en sang, c'est quand même terrible tout ça. Et puis à présent, il y a cette nouvelle menace qui pèse sur tout le pays. Les fils premiers-nés qui risquent d'être tués. Pour toi, c'est pas la fin du monde, tu as trois fils. Mais moi, je n'en ai qu'un. Et puis tu sais combien je l'aime, mon Joseph, à ce dixième fléau qui arrive. Je sais bien ce que Dieu a dit. J'ai bien badigeonné ma porte de sang. Mais je ne peux pas m'empêcher de trembler. C'est plus fort que moi. J'ai peur. » Et Simon répond, « Moi, tu sais, ça ne m'inquiète pas du tout. Je suis plus que prêt et j'ai toute confiance dans les promesses de Dieu. » Ce soir-là, l'Éternel traverse le pays. Il frappe les premiers-nés qui se trouvent en Égypte. Qui perd son fils ? Nathan ou Simon ? Aucun des deux. Pourquoi ? Parce qu'aucune famille israélite, cette nuit-là, n'a été épargnée de la mort sur la base de l'intensité de leur foi, mais sur la base du fait qu'ils avaient fait ce que Dieu leur avait demandé. Ce n'est pas la force de leur foi qui les a sauvés, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, nous sommes sauvés non pas par l'intensité de notre foi, mais par l'objet de notre foi, par l'agneau qui est offert pour nous. Car nous aussi, nous avons besoin d'un agneau. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ, l'agneau parfait offert pour nous, l'agneau ressuscité. Dieu va accompagner son peuple dans le désert et puis le faire entrer dans ce pays promis où il s'installe. Et ça pourrait être une bien belle histoire. Mais le cœur du peuple n'a pas changé. Il n'est plus esclave de l'Égypte, mais il n'a pas renoncé à son indépendance vis-à-vis de Dieu. 1500 ans plus tard environ. Après une histoire chaotique, les descendants du peuple sont dans ce pays, mais le pays est divisé. Il est sous domination romaine. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? C'est difficile de résumer 1500 ans d'histoire, mais finalement, il me semble qu'un mot peut à peu près correspondre, c'est rébellion. Ils n'ont pas voulu de Dieu comme roi, alors ils ont demandé un roi. Ils n'ont pas voulu de Dieu comme Dieu, alors ils se sont fabriqués des dieux. Où ils ont emprunté ceux de leurs voisins, des dieux qui leur ressemblent, des dieux qui les servent, des dieux qui sont muets, des dieux qui ne leur parlent pas. Pourtant, Dieu a continué à parler à son peuple. Il a envoyé des hommes dont l'activité était de parler de sa part. Mais de manière générale, ils n'ont pas écouté. Et puis, Dieu s'est tu. À nouveau 400 ans. 400 ans de silence. Et puis il a de nouveau parlé, au travers d'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Et cet homme transmet le message de Dieu et il appelle le peuple à changer radicalement de vie, de renoncer à son indépendance vis-à-vis de Dieu. Il leur dit arrêtez de vivre comme si Dieu n'existait pas, de faire comme si ce n'était pas lui qui vous avait créé, de faire comme si ce n'était pas lui qui est votre véritable roi. Et les foules viennent à lui, elles se font baptiser comme signe de repentance, comme désir de changer. Mais un jour, un homme se présente et Jean s'exclame « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et cet homme, c'est Jésus. Il est au tout début de son ministère public et à partir de là, il va être connu comme quelqu'un qui se déplace dans tout le pays pour annoncer un nouvel exode. Un exode vers un royaume éternel. Au fur et à mesure de ce parcours, Jésus va se dévoiler à ses disciples, aux foules, qui vont découvrir un homme extraordinaire, un homme vraiment différent de tous les autres hommes. Et ça commence très tôt, en fait. Le premier indice, nous l'avons à l'âge de 12 ans. Alors que Jésus est dans le temple. Les hauts responsables religieux de l'époque l'entourent et ils sont saisis par l'intelligence et par l'autorité de sa parole. Mais cette autorité va se développer et va marquer tout son ministère. Très vite, les disciples vont constater que la nature obéit à la parole de Jésus. Ils sont en train de subir une tempête, Jésus parle, il s'adresse au vent et à la mer, et instantanément, le vent se calme et les flots s'apaisent. Les foules vont être également témoins de l'autorité de sa parole. On lui amène des malades, des aveugles, des estropiés, des sourds, des muets. Et là encore, sur la seule parole de Jésus, ils sont guéris instantanément. Il démontre aussi son autorité sur le monde démoniaque. Alors qu'un village est dépassé par un homme qui est possédé par un démon, ils ne savent plus comment le maîtriser. Jésus parle et les démons sont chassés. Et la foule s'interroge. Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Et la rumeur à son sujet se répandait en tout lieu dans la région. Jésus démontre encore son autorité sur la vie elle-même, en rendant la vie à un homme qui était mort et que l'on s'apprêtait à mettre en terre. Il s'approche, touche le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Il le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Il glorifiait Dieu et disait « Un grand prophète, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, s'est levé parmi nous. Et Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Cette parole se répandit à son sujet dans toute la Judée entière et dans tous les environs. Mais Jésus démontre encore son autorité sur son propre destin. Très rapidement, il choque ses disciples en leur disant que son devoir n'est pas de vivre, mais qu'il est de mourir. Alors même que Pierre est en train de découvrir qui est Jésus au travers de tous ces aspects qu'il vient de voir, il s'exclame « Tu es le Messie, tu es le Christ, c'est-à-dire celui qui est envoyé par Dieu pour sauver son peuple. » Et puis il ne s'arrête pas, il dit « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus leur dit à ce moment-là qu'il doit mourir. Et pour Pierre, c'est tellement absurde qu'il réprimande Jésus. Imaginez pour lui, il attend depuis toujours ce Messie qui doit triompher du mal, qui doit triompher de l'injustice, qui doit s'installer comme roi. Ils ont vu l'autorité de Jésus face à la nature, face à la maladie, face au monde démoniaque, face à la mort. Et maintenant qu'ils l'ont reconnu, il leur dit « Je dois mourir. Je ne suis pas venu pour prendre le pouvoir, mais pour le perdre. Je ne suis pas venu pour gouverner, mais pour servir. Et c'est comme ça que je vais libérer mon peuple. » Quelque temps plus tard, Jésus sera accueilli comme un roi à l'entrée de Jérusalem. Mais après avoir pris avec ses disciples le repas de la Pâque, il est arrêté, jugé, reconnu innocent. Mais la foule crie « Crucifie-le !» Et ce jour-là, le tribunal a condamné à mort un innocent, alors que dans le même temps, il libérait un coupable. Et Jésus sort du prétoire portant sa croix, lui le Messie, lui le Fils de Dieu, lui qui avait toute autorité. Il s'écroule sous le poids de sa croix et on nomme quelqu'un pour l'aider à la porter. La croix est alors montée et dressée sur le mont Golgotha. Des clous sont plantés dans ses poignets et dans ses pieds. Et Jésus est suspendu là, entre ciel et terre. Il agonise sur la croix. Certains crient qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ élu de Dieu. Mais s'il descend, nous sommes condamnés. Alors il reste sur la croix. Là, dans les ténèbres, il crie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il subit la colère de Dieu. envers le péché. Dans un dernier souffle, il prononce ces mots : c'est accompli. Jésus sera placé dans un tombeau, gardé par une escouade roumaine. Le dimanche matin, de bon matin, des femmes se rendent au tombeau et elles veulent embaumer le corps, mais le tombeau est ouvert. Elles trouvent deux anges qui leur disent : mais pourquoi ? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous de ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et c'est cette résurrection que nous fêtons aujourd'hui. Car comme le dit l'apôtre Paul, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Quelques enseignements pour nous aujourd'hui. Si à cause de nos fautes, Dieu nous a condamnés à la mort éternelle, Dieu a aussi pourvu lui-même à la solution. Comme le sang de l'agneau a protégé le peuple du jugement de Dieu en Égypte, le sang de l'agneau nous protège du jugement de Dieu à venir. Sur la croix, Jésus a pris ma place, il a pris votre place. Cette semaine, nous avons sans doute tous entendu parler du lieutenant colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie pour en sauver une autre. Et les témoignages sont unanimes, la reconnaissance est unanime, et nous ne pouvons être que d'accord avec ça. Et la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Arnaud Beltrame a donné sa vie pour une inconnue. Il mérite les éloges qui sont faits à son égard. Son dévouement, son abnégation sont des exemples. Et cela ne fait que renforcer notre admiration pour Jésus. Parce qu'il est mort pour ceux qui criaient « crucifie-le ». Il est mort pour ceux qui l'humiliaient. Il est mort pour ceux qui lui ont craché au visage. Il est mort pour ceux qui l'ont tout simplement ignoré dans leur vie. Pour ceux qui se sont rebellés contre lui. De la même manière que le peuple hébreu était sauvé par la confiance qu'il avait dans la protection apportée par le sang de l'agneau, nous sommes sauvés lorsque nous plaçons notre confiance dans la protection que nous apporte l'œuvre de Jésus et son sang qui coule sur la croix. C'est pas facile de faire confiance en Christ ressuscité. Souvenez-vous, Jésus avait maintes et maintes fois annoncé qu'il allait ressusciter le troisième jour. C'est ce que rappellent les anges. Il vous l'avait dit lorsque vous étiez en Galilée. Pourtant, ce jour-là, il n'y a pas foule devant le tombeau. Personne n'est venu voir si c'était vrai. Les disciples qui l'ont suivi pendant tout son ministère, qui ont assisté à sa puissance sur la nature, qui ont assisté à sa puissance sur la maladie, sur la mort, qui ont vu comment il conduisait sa vie, ne sont pas là. Aucun n'est venu voir si le tombeau était vide. Les seules personnes qui sont là, ce sont des femmes. Elles ne sont pas venues voir s'il était ressuscité. Elles sont venues pour l'embaumer. Peut-être que ce matin, vous avez du mal à croire que Jésus est ressuscité. Si j'ose le dire, à quelque part, c'est normal. C'est pas facile à croire. Mais il y a une solution à cela. Rien n'est désespéré. La Bible nous dit que la foi est un cadeau. Ce n'est pas nous qui choisissons ce que nous croyons, c'est quelque chose que nous recevons. Et la Bible ne nous laisse pas seuls parce qu'elle nous dit comment nous obtenons ce cadeau. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous avez de la peine à croire en Christ ressuscité, il y a quelque chose de très simple. Ouvrez un évangile. Guillaume l'a dit, la Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre vivant parce que Dieu parle au travers de sa parole. Et c'est vrai que l'on peut se poser des questions. Il y a presque 2000 ans que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Mais où est la délivrance ? Le monde va mal. Guerre, terrorisme, maladie, inégalité sociale, injustice, violence dans les rapports humains, stress, pression, crise familiale. La vie est dure. Mais l'agneau est victorieux. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Qu'est-ce que cela change pour nous ? Quelque temps plus tard, l'apôtre Jean est exilé sur l'île de Patmos à cause de sa foi. Et il reçoit une vision de la part de Dieu. Et il nous décrit une dernière scène. Et cette scène se passe dans la présence même de Dieu. Dieu est là sur son trône. Il tient un livre à la main. Mais ce livre est scellé. Et il est impossible de l'ouvrir et de regarder ce qu'il y a dedans. Ce livre fermé représente le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu ne peut pas être exécuté tant que ce livre est fermé. Et il y a cette image d'un ange qui crie. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Et Jean se met à pleurer. Il pleure parce qu'il comprend que personne n'est digne d'ouvrir. Mais tout à coup, quelqu'un est désigné. Et il s'agit d'un agneau. Un agneau immolé. Cet agneau se lève, il prend le livre, il l'ouvre. Et alors tous ceux qui sont là chantent, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Et il y a des milliers d'êtres vivants qui apparaissent et qui chantent. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et ensuite, ce sont toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve qui se joignent au chant. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Que se passe-t-il ? L'agneau qui est mort sur une croix est ressuscité. Mais il n'est pas juste ressuscité. Lazare est ressuscité, mais il est mort. Jésus est ressuscité et il vit à jamais. Il vit éternellement. Il est dans la présence de Dieu. Il est ressuscité et il règne. Il a ouvert l'accès au ciel. Il est l'agneau victorieux. La mort n'a pas pu le retenir. Sa résurrection est la garantie de notre résurrection. La vie est dure. Mais au-dessus des guerres, au-dessus des violences, au-dessus de la crise de l'humanité, l'agneau règne aujourd'hui. La bonne nouvelle de l'Évangile est annoncée et de plus en plus de personnes mettent leur confiance dans l'agneau victorieux. S'il y a un point commun qui nous rassemble tous, ici dans cette salle et même toute l'humanité, c'est que nous allons tous mourir. Aucun de nous n'échappe à la mort. Tous ceux qui vivent, tôt ou tard, finissent par mourir. C'est la condamnation que nous avons pour notre rébellion envers Dieu. Mais Christ est ressuscité et la mort n'est plus une fatalité. La mort n'est plus la fin, elle est le début de la vie éternelle. Comme Christ est ressuscité, tous ceux qui ont placé leur confiance en Christ ressusciteront à leur tour lorsque Christ viendra nous chercher. Et c'est ce que dit Paul dans sa lettre aux Philippiens. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, et de là nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Ce royaume des cieux, qui existe avec tous ceux qui croient aujourd'hui et qui sera pleinement révélé dans l'éternité, nous est décrit dans les deux derniers chapitres de la Bible. Si vous voulez savoir quel est votre avenir, si vous croyez en Christ, Vous avez juste deux chapitres à lire, les deux derniers chapitres de la Bible. Des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la mort n'existera plus, où le mal, où la souffrance, où les larmes ne seront plus, où il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Les serviteurs que nous sommes lui rendront un culte, nous l'adorerons. Nous le verrons face à face et nous porterons son nom sur nos fronts. À midi, nous allons manger ensemble. Cet agneau qui est en train de rôtir dehors, je ne sais pas si vous avez senti la bonne odeur en arrivant. Et dans nos discussions, rappelons-nous qu'un autre agneau est mort. Que cet agneau est mort volontairement parce qu'il devait le faire, mais qu'il n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité et il est notre victoire éternelle. Prions ensemble. Notre Dieu, quand nous regardons ta parole, elle nous raconte au milieu de ces milliers d'années d'histoire qui se déroulent une seule histoire, celle d'un Dieu qui veut racheter son peuple, celle d'un peuple qui a été corrompu par le péché, qui est condamné à mort, et puis ensuite ton œuvre pour nous racheter. Et nous voulons te remercier parce que un jour cette œuvre est devenue concrète dans l'histoire de l'humanité. Un jour, tu t'es abaissé, tu es venu sur cette terre comme un enfant. Tu as grandi, tu es devenu cet homme que nous avons décrit, que nous avons rappelé, cet homme qui avait cette mission de mourir pour nous. Et nous voulons te remercier parce que c'était dur pour toi. Mais à un moment, tu as dit que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite et non la tienne. Et tu as accepté d'aller vers cette croix. Tu as accepté de prendre sur cette croix mes fautes, ma rébellion, nos fautes, notre rébellion. Et parce que nous croyons en toi, parce que nous croyons en ta résurrection, aujourd'hui nous avons une perspective éternelle devant nous. La mort ne nous fait plus peur, au contraire. La mort nous rapproche de toi. Un jour, nous te verrons face à face. Un jour, nous serons dans ce monde renouvelé, parfait, où il n'y aura plus de larmes, plus de douleurs, plus de souffrances. Et nous aspirons à cela. La dureté de ce monde nous rappelle combien nous aspirons à cela. Et nous voulons te remercier parce que, dès l'éternité passée, tu avais tout prévu. Et tu as tout accompli. Ce que nous ne pouvions faire, tu l'as fait. Sois loué, sois béni pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.